va. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin alors qu'il fait encore sombre et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis ». Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout, au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés ? Ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez ? Ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelait le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom.
Bonjour. Je vous invite à la prière d'abord, prions. Merci Seigneur pour ce temps ensemble, à nous souvenir de ce que tu as fait en Jésus-Christ, sa mort à la croix pour nous, à notre place, et aussi pour sa résurrection, sa nouvelle vie, aussi à notre place pour nous. Aide-nous ce matin à recevoir ta parole, à l'écouter, et aussi à mettre notre confiance en ton Fils. Au nom de Jésus. Amen. Alors, après le sommet des G20, les leaders mondiaux se sont fait un peu les héros d'un nouvel ordre mondial. Ils ont repris une expression qui a été utilisée après la fin de la guerre froide. Alors, sans vouloir être trop cynique, l'expression, me semble-t-il, est un peu exagérée. Est-ce raisonnable de croire ces hommes? J'aimerais bien les croire. Mais je pense que je préfère voir les résultats de ce qu'ils ont promis avant de me prononcer là-dessus. Vous aussi, sans doute. Alors, ce qui est présenté dans notre texte ce matin, ce qui est présenté dans notre texte ce matin est pas moins qu'un nouvel ordre mondial. Même plus que cela, un nouvel ordre cosmique. La résurrection de Jésus est un marqueur historique dans l'espace et dans le temps qui prétend changer complètement la donne. Pourquoi ? Parce qu'en elle se trouve notre espérance de notre propre résurrection. Mais en elle, par elle, la mort est vaincue. Cette mort qui nous guette tous. L'apôtre Paul dit dans sa première lettre à l'église de Corinthe, « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ?» La résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Si on abandonne la résurrection, on abandonne la foi. Un Jésus mort, même si on apprécie bien ses enseignements, la sagesse de ce qu'il a dit, un Jésus mort n'a plus de sens. L'apôtre Paul a dit dans cette même lettre aux Corinthiens, donc il a écrit cette lettre 20 ans après les événements, il a dit « Telle est la foi à laquelle vous êtes venus ». Et quelques versets plus loin, il a dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Il y a une scène dans un film que j'aime bien, donc Gran Torino. C'est un film qui est toujours à l'affiche au cinéma, donc avec Clint Eastwood. Il y a un moment qui résume bien l'attitude de beaucoup dans notre société. Donc Kowalski, donc l'homme, le personnage principal du film, c'est un vétéran de la guerre de Corée. Un homme endurci, un homme amer, cynique. Il vient de perdre sa femme d'un cancer. Mais sa femme était croyante, donc catholique, et puis, comme vous voyez sur la photo, elle avait été accompagnée par ce prêtre catholique tout au long de sa souffrance, sa maladie. Et cette femme avait demandé au prêtre d'aller voir son mari après sa mort pour que son mari reçoive ce que les catholiques appellent le sacrement de la pénitence et la réconciliation, donc c'est-à-dire la confession. Comme vous pouvez vous l'imaginer, cet homme, un endurci, assez cynique, ne veut pas ça, surtout pas. Il n'y croit pas. Même s'il est rongé par la culpabilité pour tout ce qu'il a fait pendant la guerre. Il n'a que des paroles dures pour ce prêtre. Il lui lance à la figure. Vous n'êtes qu'un gamin qui tient les mains des vieilles femmes et qui leur promet la vie éternelle. Et je pense à l'instar de Kowalski, ce personnage. Notre culture n'y croit pas. Elle n'y croit plus. Alors, la foi, elle est souvent décrite par les médias comme une croyance personnelle, subjective. Chacun a le droit de penser comme il veut. Si ce qu'il croit lui donne du courage, tant mieux, c'est bien pour lui. Si ce qu'il croit finit par structurer la société, moralement parlant, civiquement parlant, dans ce cas-là, la foi c'est quelque chose de bien, oui, c'est pas mal. En revanche, s'il considère que ce qu'il croit est plus fondé que ce qu'un autre croit, s'il a plus raison qu'un autre, ses propos sont jugés intolérants et déplacés, arrogants même. Mais compris ainsi, la foi n'a plus rien à voir avec les faits historiques, ce qui s'est passé. En gros, la foi, elle serait l'invitation à mettre son cerveau de côté, de simplement croire à une belle histoire, peut-être même de croire à une illusion. Peut-on y croire ce matin? Peut-on y croire? Est-ce que notre foi est raisonnable? Est-ce qu'elle est fondée? Bien sûr, je pense que la question peut être inversée aussi. On peut se poser la question, est-ce que le doute, est-ce qu'un manque de foi est-il fondé aussi? Est-ce qu'on a de bonnes raisons de ne pas y croire? Est-ce qu'on peut offrir une autre explication à ce qui s'est passé là-bas, il y a 2000 ans? Mais souvent, il y a une sorte de lassitude. On en a marre de ce genre de questions. Mais on devrait au moins vouloir croire. Pourquoi? On voit bien que notre société a un sens vif de l'injustice et de la justice. Nous n'aimons pas l'injustice. Les licenciements abusifs sont décriés haut et fort. Les patrons voyous sont séquestrés jusqu'à ce qu'ils renoncent à leurs plans sociaux. Le pouvoir est souvent contesté au nom de la justice. Et qui ne veut pas un monde meilleur? Qui ne veut pas voir la fin du cancer ou des maladies, des famines, des guerres? Mais bon, s'il n'y a que la mort qui nous attend, si de toute façon tous nos efforts pour bonifier ce monde seront un jour rendus caducs parce que le soleil va imploser ou quelque chose du genre, à quoi ça sert de lutter aujourd'hui pour un monde meilleur? Il y avait dans les années 70 le mouvement punk qui avait été un peu marqué par le nihilisme et qui avait un slogan. En anglais, c'était « no future », ce qui veut dire « il n'y a pas d'avenir ». C'est logique quelque part, si on n'a plus la foi, si on ne croit plus au lendemain, ça conduit à l'inertie, à la dépression. Mais en revanche, s'il y a une résurrection, ça change tout. Parce que cela veut dire que le monde a un avenir, que nous avons un avenir, que nos vies ont un lendemain. Du coup, la mort, la maladie, le sacrifice, la souffrance, ce ne sont pas des réalités ultimes. On veut donc bien y croire. Mais est-ce qu'on peut légitimement y croire? Notre foi est-elle naïve, futile, où est-ce qu'elle est fondée? On va quand même reprendre notre texte de ce matin pour répondre à cette question. Nous allons retrouver l'évangéliste Jean, son témoignage. L'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, a écrit ce passage. Il n'est pas un analyste neutre, il le dit dès le départ. C'est un témoin oculaire de ce qui s'est passé, c'est un témoin engagé. Il veut vraiment nous convaincre de quelque chose. Il est convaincu lui-même par ce qu'il raconte, parce que ce qu'il raconte a changé sa vie. Et ce matin, Jean veut que nous fassions meilleure connaissance avec un ami à lui, donc un autre apôtre, Thomas. Et cet apôtre se posait le même genre de questions. Donc, nous allons rencontrer ce matin un disciple. Non, ça ne marche plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu peux faire avancer ou pas vraiment? Ah non. Oui, c'est ça. Merci. Ouais. Donc, on va rencontrer ce matin un disciple qui est abattu par le doute. Vraiment abattu. Donc, mais on va voir, à la fin du passage, il est complètement transformé par sa rencontre avec Jésus-Christ. Il devient un adorateur confiant de Dieu. Comme je viens de dire, Jean est un témoin engagé. Il est venu lancer un défi aussi ce matin. Il veut que nous ayons à peu près le même parcours que Thomas. Ça, c'est ce qu'il a dit à la fin de ce passage, donc les versets 30 à 31, je vais les relire, qui forment un peu la conclusion du livre de l'évangile de Jean, mais en fait ces versets viennent aussi à la fin de notre chapitre. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est son but ce matin. Il veut que nous trouvions la vie, la vraie, l'éternelle, en mettant notre foi en le Christ ressuscité. Alors voyons ce qu'il a à nous dire ce matin. On va commencer avec les versets 24 et 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Alors, pour une raison ou pour une autre, Thomas n'a pas été là la semaine d'avant, lorsque Jésus s'est présenté aux autres disciples. Et cet homme est rongé par le doute. Alors, le doute se présente à nous sous des formes variées. On peut parfois douter de nous-mêmes. On peut se dire, je ne suis pas assez bon. C'est un doute plutôt existentiel. Mais parfois, on peut douter des réalités de quelque chose, de la véracité de ce qui est dit. Notre doute peut être un peu intellectuel. Et le doute peut s'installer pour des raisons différentes. Ça peut relever simplement de l'ignorance. On ne connaît pas les faits. Et le fait de combler les manques, l'ignorance, ça nous aide à croire. Et parfois, le doute s'installe parce que c'est un peu à cause de notre péché. C'est un peu à cause de notre laisser-aller. Et finalement, après un bout de temps, ça nous arrange de ne plus y croire. Alors, le doute de Thomas n'est pas le doute systémique d'un athée, d'un sceptique moderne qui ne croit pas au miracle ou qui refuse d'admettre quelque chose qui ne peut pas être vu dans un laboratoire. Thomas, c'est quand même un juif du premier siècle, pas n'importe quel juif, c'est un homme qui a choisi de suivre Jésus. Il a fait le choix de le suivre. Il a dédié sa vie à cet enseignant itinérant, religieux, Jésus-Christ. De sur quoi il a vu Jésus marcher sur le lac de Galilée, par exemple. Il a vu en train de faire des guérisons. Thomas doute, me semble-t-il, parce que c'est un homme profondément déçu. Il ne veut pas se faire avoir. Il est abattu. Le maître qu'il a suivi depuis près de 3 ans vient de se faire assassiner de manière atroce. Il vient d'être pendu sur l'infâme bois. Et selon la Bible de Thomas, l'Ancien Testament, cela équivaut à la malédiction de Dieu. Celui que Thomas aimait avait été maudit de Dieu. C'était la honte. Alors Thomas a sans doute écouté patiemment les témoignages des autres disciples. Thomas ne s'est pas isolé des autres. C'est vrai que lorsque nous passons par des moments de doute, c'est bien de ne pas nous isoler, mais de rester entre frères et sœurs. Mais Thomas, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a écouté les autres. Il y avait d'abord le témoignage de Marie-Madeleine, cette femme de qui Jésus avait renvoyé des démons. C'est vrai que Jean donne beaucoup de place au témoignage de Marie. C'est étonnant parce que à cette époque-là, les gens ne donnaient pas beaucoup de, accordaient pas beaucoup de poids au témoignage d'une femme. C'est pas bien, mais à cette époque-là, c'était comme ça. Et les gens auraient été étonnés de voir que l'évangéliste Jean avait choisi d'inclure et de mettre en valeur vraiment ce témoignage. Il a fait parce que ça s'est passé comme ça. C'est la seule explication raisonnable. Et Marie, et ensuite Pierre et Jean, donc le disciple bien-aimé, avaient vu que le tombeau était vide. Pendant un moment, Marie a cru que quelqu'un a dû enlever le corps de Jésus. C'est une interrogation, une question tout à fait logique, raisonnable. D'autant plus que l'évangile de Matthieu nous dit qu'il y avait une rumeur antichrétienne à l'époque selon laquelle les disciples avaient volé le corps de Jésus pour faire semblant qu'il serait ressuscité. Et pour faire passer ce genre de rumeurs, il a dû y avoir ce genre de choses à cette époque des profanations de tombeaux. C'est vrai, Thomas a dû se dire, oui, le tombeau vide pose problème. Il faut une explication. Le corps de Jésus n'est pas là. Et même ceux qui s'opposent à la foi, peut-être la foi des autres disciples, n'avaient pas pris le corps. Ils étaient dans l'incapacité de monter le corps. Ils ne l'avaient pas. Et cette question des linges funéraires, ces bandelettes, a dû interpeller Thomas aussi. Alors Marie n'est pas entrée tout de suite dans le tombeau. De toute façon, il faisait noir à ce moment-là. Mais c'est Pierre et Jean qui arrivent après. Et c'est Pierre qui entre dans le tombeau et il voit ces bandelettes. Il voit aussi que le linge qui avait été sur la tête de Jésus avait été roulé à part, ailleurs. Il a dû se dire, mais pourquoi, si quelqu'un a volé le corps, pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé les bandelettes avant? Ça semble quand même bizarre de faire ça. En plus, ce linge se vend, il coûte, ça n'a pas de sens, c'est bizarre. Et Thomas a dû penser à son ami Lazare. Donc Lazare, c'est Jésus qui avait ressuscité Lazare. Et lui, quand il est sorti du tombeau, il était enroulé de ses bandelettes, ce linge funéraire. Et ça a dû être une scène assez comique. Mais Jésus, s'il est ressuscité, il a dû passer par ce linge, à travers ce linge funéraire, pour en sortir. Et ensuite, Thomas se dit, j'ai entendu aussi le témoignage de Marie qui prétend l'avoir vu, touché, entendu. Alors Marie ne l'avait pas reconnu au début. Jésus avait l'air un peu différent. Mais sa voix, c'est vraiment sa voix qui a convaincu Marie que c'était bien Jésus. Il parlait de la même manière. C'est vrai que Marie était dans tous ses états. Elle pleurait. Thomas a dû se dire, mais peut-être elle s'est trompée. Peut-être Marie s'est trompée. Sauf que la semaine d'avant, 8 jours auparavant, les 10 autres disciples ont vu Jésus aussi. Oui, Marie s'est peut-être trompée, mais les autres, c'est pas possible. 10 personnes ensemble, ils n'ont pas pu se l'imaginer. En plus, ils s'y attendaient pas. Qui s'y attendait d'ailleurs? Parce que pour les Juifs, la résurrection, c'était quelque chose qui allait avoir lieu à la fin du temps, lors du jugement de Dieu, un peu à la fin du monde. Mais pas maintenant, pas un seul homme, un individu comme ça. Thomas a dû se dire, oui, Marie, elle est endeuillée, donc elle a pu peut-être se tromper, mais les 10 autres ensemble, ce n'est guère crédible. Les allusions collectives, ça n'existe pas. Et Thomas les connaît en plus. Ce sont des hommes craintifs. On peut penser à l'apôtre Pierre, par exemple. Il a dû se dire, mais ces hommes ont plutôt envie de disparaître discrètement. Ils n'ont pas envie de se faire parler d'eux, de créer toute une histoire. Cet homme, c'est ce qu'ils ont dit, portait les marques d'un crucifié. En plus, il parlait comme Jésus. Il avait parlé de son Père, de les envoyer. Il avait parlé de la paix, du pardon. Mais bon, Thomas, il est trop déçu. Thomas, il ne veut pas se faire avoir. Peut-être qu'ils se sont trompés. Il est trop abattu pour les croire sur parole. Il ne veut pas avoir ses espoirs terrassés de nouveau. Souvent, on pense, quand on pense aux gens d'autres siècles, on pense qu'ils étaient peut-être des gens un peu mystiques, un peu bizarres, et que l'homme moderne a un peu grandi. Il ne va pas se faire avoir, piéger par ce genre de choses. L'auteur C.S. Lewis, donc celui qui a écrit les Chroniques de Narnia, et bien d'autres livres encore, appelle cette idée le snobisme chronologique. Parce que les hommes du 1er siècle n'étaient pas des naïfs. La preuve, c'est Thomas. Sans doute, est raisonnable. Il lui faut des preuves supplémentaires. Il veut voir, il veut toucher les blessures, les cicatrices de Jésus. Il veut être sûr que les autres disent vrai. Alors, Thomas n'en reste pas là. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Ça y est, cette fois-ci, Thomas est de la partie, il y est. Et la même chose se reproduit. Jésus se présente au milieu du groupe. Étrangement, oui, il faut le dire, il passe à travers les murs, comme il a passé à travers le linge funéraire. Jésus est différent, mais pourtant c'est bien lui. Il est salué, la paix soit avec vous, shalom en hébreu. Cette salutation qui est porteuse de sens. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus a bien entendu les propos, les doutes de Thomas. Avec un vrai soin pastoral, donc il reprend ses paroles. La semaine dernière, Jésus avait été là avec les autres disciples. Jésus avait montré ses mains, son côté. Mais cette fois-ci, il invite Thomas à le toucher. Et Thomas avance sa main et le touche. Jésus n'est pas un fantôme. Son corps est différent, on l'a vu. Mais son corps est bien physique. C'est le même corps qui est entré dans le tombeau, qui en est ressorti après. Le tombeau est bien vide. Et doucement, Jésus, mais fermement, Jésus appelle Thomas à abandonner son incrédulité pour croire. Il appelle Thomas à se repentir et à mettre sa foi en lui. Verset 28. Thomas lui répondit, « mon Seigneur et mon Dieu. » Nous avons là peut-être la plus belle confession de foi du Nouveau Testament. C'est personnel, c'est mon Seigneur, mon Dieu. Et Thomas appelle Jésus Dieu, mon Dieu. Alors ceux qui nient la divinité de Jésus ont bien du mal avec ce verset-là, ils sont bien embêtés, c'est très clair. Thomas le reconnaît pour ce qu'il est vraiment, pour qui il est vraiment. Thomas a dû passer toute la semaine à cogiter, à se poser plein de questions, à passer en revue le ministère de Jésus. Il a dû se souvenir des moments quand Jésus a fait taire le vent et calmer la mer. C'est vrai, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a eu quand même aussi des moments un peu énigmatiques. Jésus avait dit par exemple que Dieu était son Père, se faisant l'égal du Père. Il avait dit aussi « Avant Abraham fut, moi je suis ». Jésus avait prétendu avoir l'autorité de pardonner les péchés. C'est vrai, il n'y a que Dieu qui a le droit, qui a l'autorité de pardonner les péchés des autres. On ne peut pas simplement pardonner quelqu'un d'autre à sa place. Le grand roi de l'Ancien Testament, David, a bien fait ce constat. Lorsqu'on pêche contre notre prochain, en premier lieu, on pêche contre Dieu. David a dit dans le psaume 51, il pensait à son adultère, à un meurtre qu'il avait commis. Il a dit à Dieu, « Envers toi, toi seul, j'ai péché. » Parce que le péché est d'abord une insulte contre Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et là, pour Thomas, c'est un grand moment de déclic. Quand Jésus avait dit ces choses, quand Jésus a fait ces choses, il a vraiment montré qu'il était Dieu. Il a dit vrai. La preuve, c'est que Jésus est là devant Thomas, un crucifié, un maudit. Un maudit a été justifié, il a été acquitté par Dieu. Jésus a dit à maintes reprises qu'il était Dieu. Certes, pendant son ministère, Thomas et les autres disciples avaient bien du mal à comprendre Jésus. Mais là, pour Thomas, c'est devenu limpide. Il est Dieu, il est sans Dieu. Le sceptique n'est plus sceptique, l'incrédule croit. Force est de constater que Thomas n'avait pas le choix. La preuve était accablante. L'abattu est dans la joie. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Jésus parle aussi de nous dans ces versets. Et Jésus veut nous montrer aussi la voie du bonheur, la voie de celui qui est approuvé par Dieu. Verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors certains vont dire, ce n'est pas très juste. Moi, j'aime bien être à la place de Thomas. Moi, personnellement, je croirais si seulement j'avais été Thomas, si Dieu devait se montrer à moi, s'il devait se manifester, ne serait-ce que par un petit miracle pour prouver qu'il est là. Mais Dieu n'est pas un commercial un peu désespéré qui parcourt le monde, qui fait des mini-démonstrations de miracles pour persuader les gens. Dieu nous a donné un signe crédible, c'est Jésus, c'est la résurrection. Et Dieu nous a donné des témoins oculaires qui sont crédibles aussi. Ils sont en quelque sorte nos yeux. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul a écrit... Lorsqu'il a écrit à l'église de Corinthe, donc cette même lettre a dit, donc je cite verset 3 du chapitre 15, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. En très peu de temps, dans l'espace de quelques années seulement, Paul écrit ici 20 ans après les événements, mais il parle déjà de la croyance ferme, fixe de l'Église primitive, dans l'espace de quelques années seulement, un séisme a eu lieu, un séisme théologique, un séisme philosophique, religieux. Parce que l'Église a vu le jour. Elle est composée de juifs, des gens strictement monothéistes, comme Thomas, qui se sont mis à adorer Jésus comme Dieu, comme Yahvé, comme leur créateur. Elle est composée aussi de non-juifs. Ça, en elle-même, c'est un miracle. Mais ces non-juifs ont mis leur confiance, leur espérance dans la résurrection physique. Parce que jusqu'à là, les Grecs, les non-juifs, méprisaient le corps physique. C'est quelque chose, c'est une prison de laquelle il fallait s'échapper. Paul dit dans cette lettre que 500 personnes l'ont vu vivant. Et bon nombre d'entre eux sont toujours vivants. C'est vrai que si quelqu'un avait voulu contester les propos de Paul, il aurait été possible d'aller enquêter un peu sur place. Et à cette époque-là, il y avait des routes romaines qui permettait de faciliter les voyages. Et Paul, si les propos n'étaient pas avérés, ce serait exposé au ridicule. Ces apôtres ont passé toute leur vie, le reste de leur vie, à proclamer la résurrection. Et bon nombre sont morts pour leur foi. Comment expliquer ces choses? Autrement par le fait que leur témoignage est recevable, qu'il est fiable, qu'il est raisonnable. Parce que Dieu ne nous demande pas de mettre notre confiance en quelque chose qui est simplement subjective, qui est simplement une foi personnelle. L'appel de Dieu est basé sur les faits historiques, qui concernent un homme qui a vaincu la mort et qui en a donné les preuves, des preuves dans l'espace et dans le temps. Ce que ces gens ont vu est beaucoup plus convaincant qu'un petit miracle que Dieu pourrait faire devant nous ce matin. Parce que ce qu'ils ont vu a changé la donne. Ça a changé la donne complètement. C'est un véritable nouvel ordre mondial. La mort a été vaincue, cette mort qui nous guette tous, et nous avons la preuve. Les prémices un peu dans l'histoire qui garantissent notre propre résurrection physique. Kowalski, ce cynique, cet homme un peu endurci qui méprisait cette espérance avait bien tort. Nos souffrances, nos luttes ne sont pas la fin déprimante. Ceux qui meurent pour la foi ne meurent pas en vain parce que nous avons une espérance. Nous avons l'espérance de la vie, la vraie, l'éternelle, de la résurrection physique. Et cette espérance anime tous ceux qui connaissent le Seigneur, qui ont mis leur foi en lui, en celui qui a été maudit à la croix, à leur place. Nous avons un avenir avec Dieu, un avenir de paix, de réconciliation, de joie. Et ça, c'est ce que nous voulons fêter ce matin. C'est une foi raisonnable, mais est-ce votre foi ce matin? Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.